J'allais dire bon matin par habitude, mais bon, bon après-midi. Quelques visages que je ne connais pas, donc content de voir ça. Fait quelque temps que je suis pas venu parmi vous enseigner, hein, fait un bout de temps, donc je vous demanderai pas où est-ce qu'on était la dernière fois. Probablement que peu s'en rappellent. Je vais vous faire tourner dans Luc. Je vais continuer avec vous. Là où on avait laissé, même si ça fait longtemps, on était dans Luc 14. Ah. Je ne sais si vous vous rappelez un peu du contexte, je vais vous le rappeler, je vais vous faire miséricorde. Dans Luc 14, on voit que Jésus entame un discours par l'effet d'un souper dans lequel il va avoir comme trois mises en scène différentes, mais il entame un discours avec les pharisiens, avec les élites de son temps, avec les scribes. C'est le sujet qui va être suivi, qui est présent depuis quelques chapitres déjà dans Luc et qui va être suivi à travers le chapitre 14. Et on arrive à ce point où est-ce que Jésus a commencé le souper. Donc, la dernière fois, c'était 14, 1 à 6, je crois, qui nous démontre une scène initiale avec laquelle, dans laquelle Jésus est invité par un homme de la loi, un pharisien, probablement après le culte à la synagogue, d'aller dîner chez lui. Et évidemment, comme rabbi itinérant qui voyageait, Jésus était souvent reçu de la sorte. Et il voit une personne qui a une maladie et il le guérit. Évidemment, c'était pour certains des pharisiens présents scandaleux. Hein? Comment ose-t-il faire un travail le jour du sabbat, le jour du Seigneur? Et on a vu comment l'interprétation des pharisiens de ce qu'est le sabbat était biaisée à la base, n'était pas la bonne interprétation de ce qu'on devrait faire du sabbat et comment Jésus remet un peu les pendules à l'heure par rapport à cette compréhension. Donc, c'est dans cette foulée, je voulais juste vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est dans cette foulée qu'on retrouve maintenant Jésus dans les versets 7 à 14 ce matin, cet après-midi, et ça se peut que je le dise souvent, désolé, pardonnez-moi. Et qu'on le retrouve dans ce même scénario, donc toujours à ce souper, où est-ce que Luc décrit dans ce nouveau bloc de texte un deuxième événement. Puis on va faire le bloc de 7 à verset 14. On voit qu'il s'adressa ensuite, évidemment il s'adressa encore aux pharisiens, aux gens qui étaient présents lors de ce souper, mais on voit que le contenu de ce qui va être enseigné cette fois-ci par Jésus se retourner plutôt vers l'humilité et la générosité. Deux thèmes qui vont revenir de l'avant dans cette parabole que Jésus va leur donner. Donc faisons la lecture des versets 7 à 14 avant d'aller plus loin. Il adressa ensuite une parabole aux conviés. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas en première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a envoyé l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux et des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. L'emphase ce matin sur la leçon que donne Jésus à ce souper, on pourrait l'appeler la deuxième portion de souper ou le deuxième souper, peu importe, et celui de comment les enfants de Dieu devraient vivre dans ce monde. Il nous enseigne essentiellement deux grands thèmes que l'on retrouve évidemment à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Le thème de l'humilité est le premier qu'il va aborder. Vous savez, plusieurs gens de l'époque de Jésus devaient penser que les élites religieuses, les pharisiens, les scribes, étaient des hommes de la loi, donc par défaut avaient un titre, avaient un leadership, avaient une influence dans leur culture, dans leur société. Donc, ils étaient vus comme des modèles de facto de leur position et de leur statut. Ils avaient un pouvoir d'influence grand sur le peuple. Et pourtant, ici, Luc, par le fait des événements qu'il raconte sur Jésus, nous démontre que les pharisiens rejetaient Dieu. Ça peut paraître drôle à dire, puisqu'on sait que les pharisiens disaient aimer beaucoup Dieu. Mais ils le rejettent parce qu'ils rejettent Christ. Ils rejettent tout ce que représente Christ et Dieu en termes d'humilité et de générosité. Jésus démontre que par ce texte que les pharisiens ne suivaient pas réellement Dieu, parce qu'ils n'avaient pas les désirs que Dieu a. C'est difficile de dire qu'on suit quelqu'un, que quelqu'un est notre modèle, si on fait absolument tout le contraire de ce que notre modèle nous démontre ou nous dit de faire. Ça devient un peu... Il y a comme un schisme entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'exemple du sabbat, qui était un peu plus loin dans le chapitre 14, nous le démontre bien. Les pharisiens n'avaient pas réellement compris ce que Dieu enseigne sur le sabbat. Ils avaient juste utilisé le sabbat pour promouvoir leur propre tradition humaine. Pour simplifier la chose, on pourrait dire qu'en fait, les pharisiens avaient instrumentalisé leur foi en Dieu. Ils utilisaient la religion, la foi, pour s'élever, pour se glorifier, pour avoir un statut social. C'était pour eux un moyen de pouvoir, essentiellement. Mais après avoir fermé la bouche des pharisiens dans le passage précédent, il poursuit son enseignement et il démontre comment Dieu s'attend à ce que quelqu'un qui dit l'aimer le suive. Et cette première exhortation nous vient par rapport au sujet de l'humilité. J.C. Ryle, un commentateur, décrit les vertus de l'humilité ainsi, et je le cite, « L'humilité pourrait être appelée la reine des grâces chrétiennes. Connaître notre propre péché et faiblesse et ressentir notre besoin de Christ est le tout début de la religion salvatrice. C'est une grâce qui a toujours été le trait distinctif du caractère des saints, les plus saints de tous les temps. » L'humilité est définitivement une distinctive chrétienne, surtout si on regarde au modèle ultime, à Jésus-Christ. Ce serait difficile de regarder au Nouveau Testament et de ne pas voir que Christ était un homme humble. Et pourtant, il était un homme puissant à bien des égards. Quand on regarde au verset 7, on voit qu'il y a une forme de coutume qui est établie parmi les Israélites. Les meilleures places sont dans ce texte décrites comme étant choisies par les personnes qui arrivaient. Les invités choisissent eux-mêmes leur place et Jésus observe, hein, autant qu'il se faisait observer dans les paragraphes précédents, là, c'est lui qui observe les gens qui arrivent au souper et ce qu'il observe le pousse à donner cette exhortation. Et ce qu'il observe, c'est des gens qui vont tous prendre des places d'honneur, qui se ruent vers les endroits qui étaient honorables. Bon, il faut se mettre en contexte un peu, là. Aujourd'hui, peut-être qu'on a perdu un peu le sentiment de ce que c'est des places d'honneur. C'était souvent distribué dans ce temps par le statut social, par l'âge, par une combinaison de ces deux facteurs-là. Mais les places aux côtés des autres, ou en face d'eux, ou proche d'eux, étaient gardées pour les invités d'honneur, puisque, évidemment, ils n'avaient pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas les micros fancy puis les speakers. Donc, si tu voulais entendre l'autre qui te recevait, tu devais être proche. Sinon, ben, t'entendais pas bien. Donc, les places honorables pour les gens importants, influents, étaient réservées proches de celui qui parlait. C'était le même principe dans les synagogues. Ceux qui étaient proches étaient ceux qui avaient un statut plus élevé, plus honorable, je devrais dire. parce que c'était plus facile d'entendre, parce que c'était possible de communiquer même avec l'autre, de parler. Et dans le cas peut-être des pharisiens, c'est pas dit textuellement, mais on se doute que c'était aussi pour être vu en la présence du rabbi. Hein? On voulait augmenter un petit peu son statut social. Moi, j'ai été avec Jésus, hein, le nouveau rabbi. As-tu entendu parler de lui? Il fait des miracles. Donc, j'imagine que le mot se passait et on voulait être à ses côtés. C'est moins évident, comme je l'ai dit aujourd'hui, on n'a pas les mêmes coutumes. Donc, quand on lit ça, parfois, ça nous paraît un peu étrange, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes mœurs et les mêmes coutumes qu'il n'y a pas encore dans nos cœurs des petites parcelles d'auto-glorification. Hein, vous savez, le type de péché peut changer, mais le péché reste là parce qu'on est encore pécheur. Donc, c'est pas parce qu'on ne valorise plus nécessairement ce type de coutumes ou de traditions qu'on n'a pas encore nous-mêmes de la difficulté avec le contraire de l'humilité qui pourrait être décrit comme l'orgueil. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, même en tant que chrétien, nous n'avons pas des luttes avec certaines formes d'orgueil et d'égoïsme et qu'on n'essaie pas de trouver par d'autres moyens des façons de se glorifier nous-mêmes. Que ce soit par la recherche d'un certain prestige mondain dans notre travail ou dans nos milieux de vie, peu importe où Dieu nous place, que ce soit par une recherche de pouvoir ou de célébrité, vouloir être connu partout sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Insérez ce que vous voulez là-dedans, ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, être une figure publique de votre communauté. Et même pour les pasteurs, le fameux phénomène des pasteurs rockstars qu'il y a depuis quelques années, ces pasteurs qui sont essentiellement des vedettes. Il y a toujours une tentation d'être orgueilleux et de vouloir se promouvoir soi-même. Vous savez, les gens dans notre société vivent de cette chose même que Jésus nous avertit contre. Ils vivent pour leur propre soif de pouvoir, de gloire, d'honneur. Vous savez, si vous étiez pour demander à la plupart des gens qui sont dans les rues s'ils aimeraient ça être des célébrités, la grande majorité, je suis convaincu, vous dirait que oui. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui désire être glorifié, gratifié, reconnu. Les gens, généralement, vont voir et définir le succès à travers les yeux des autres. Ils vont pas voir le succès à travers de ce que la Bible leur dit. Ils vont voir le succès à travers de comment les gens les voient. Et ça, ben, à chaque décennie, ça change. Donc, on s'adapte aux mœurs de notre temps. Et on essaye d'être la meilleure version de ce que notre époque peut offrir pour être vu par les autres. Ce qui nous pousse aujourd'hui à être vus comme des gens très archaïques quand on emprunte des valeurs traditionnelle, conservatrice, chrétienne, comme on le fait. Parlez à un jeune couple pas chrétien d'abstinence avant le mariage, vous allez voir les yeux qu'ils vont vous faire. C'est pas trop populaire comme concept. Pour les chrétiens, pourtant, la seule vraie question devrait être « qu'est-ce que Dieu pense de moi? » Ça devrait être notre seul critère de succès, essentiellement. On lit la Bible, on regarde à ce que Dieu nous demande, puis est-ce que je suis fidèle à ça? Et si je suis fidèle à ça, je peux aller me coucher le soir, sachant que, bien qu'imparfait, je plais à Dieu. La place à la table ou la place d'honneur dans la synagogue est facilement remplacée dans nos cœurs par toutes sortes d'autres désirs que nous avons aujourd'hui. Mais cette recherche incessante de gloire est encore là. Et on doit encore combattre avec nos chairs. On doit, comme le Nouveau Testament nous encourage à le faire, mortifier notre péché, le mettre à mort. Chaque jour, c'est un combat. Il ne faudrait pas penser que ce n'est pas applicable aux chrétiens. Oui, évidemment, nous avons le Saint-Esprit et nous pouvons combattre, mortifier justement ce péché. Et donc, on ne doit pas vivre comme le monde le fait à cet égard. Il y a plusieurs églises à travers l'histoire de l'Église, et on n'a même pas besoin de reculer, on peut juste voir notre ère contemporaine, qui ont été déchirées par des conflits d'orgueil, par des conflits de privilèges, d'influence, que ce soit économique, financière, sur l'Église, sur la façon de diriger, sur la façon de donner, sur toutes sortes de sujets. Et à la base, la plupart du temps, de ces conflits, c'est un conflit de pouvoir. C'est un conflit de personnalité, de gens qui ne sont pas capables de se demander pardon. Malheureusement, le cœur est tortueux et la recherche de gloire se fait même au sein de l'Église, parfois. Et c'est scandaleux. Peu importe comment l'honneur est recherché dans nos vies, dans notre cœur, parce que, évidemment, on doit se l'appliquer à nous-mêmes, peu importe comment notre cœur cherche à se glorifier dans notre contexte, nous ne sommes pas à l'abri d'une telle attitude. Et Jésus nous enseigne à être humbles. Il nous encourage ce matin à rechercher cette humilité et non pas notre gloire. C'est l'attitude du cœur que Jésus voit chez ses invités et qui le pousse à donner cette exhortation. Il les voit prendre les premières places, désirant s'approprier une gloire qui n'était pas la leur. Et là est tout le problème. Le problème n'est pas nécessairement dans le fait que certaines personnes ont des places d'honneur. C'est correct qu'il y ait des personnes qui soient assises dans ces sièges-là. C'est même correct que ce soit peut-être vous. L'idée ici, c'est qu'on ne devrait pas chercher à prendre ces places. Et Jésus va revenir un peu avec cette idée plus tard. Mais la raison qu'il donne cette parabole dans le contexte concret est pour que ses invités au souper comprennent que ce qu'ils sont en train de faire est contraire à comment ils devraient agir, étant eux-mêmes des hommes se disant religieux, se disant saints, connaissant Dieu. De connaître Dieu implique qu'on soit humble. Et par les versets 8 à 9, il leur explique quoi ne pas faire. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à une noce, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi. Et là, celui qui t'a invité va te voir et te dit, hey, excuse, peux-tu aller t'asseoir en arrière? Je pense que l'image est claire. C'est quand même un peu humiliant. Elle est simple, elle est claire, l'exhortation que Christ donne. Ne cherchez pas les places d'honneur. Il le dit textuellement. Ne cherchez pas les places d'honneur. Les meilleures places, oui, sont données aux invités d'honneur. Et vous savez quoi? Les invités d'honneur, tout comme la mariée, ont tendance à arriver en retard. Si vous prenez leur place et qu'ils arrivent en retard, le maître va falloir qu'il se lève devant tout le monde et qu'il vous dise d'aller vous asseoir en arrière. Le choix que Jésus propose est un choix entre l'humilité et le risque d'être humilié. On a le choix de s'humilier, d'avoir de l'humilité ou d'être humilié, ou de prendre le risque d'être humilié dans ce cas-ci. Mais pourquoi les gens prenaient les places d'honneur? On peut se poser la question. Bien, parce que c'était l'attrait d'avoir le droit à une place d'honneur quand on sait qu'on ne la mérite pas, quand on sait qu'elle n'était pas pour nous. On prend la chance, c'est l'appât du gain. C'est la même chose qu'on fait avec tout plein d'autres choses dans notre vie quand on est orgueilleux. On se dit peut-être je vais m'en tirer. C'est pas à moi, je le sais, mais je vais le prendre, puis tu sais, personne ne va me le dire peut-être. Mais ce que Jésus leur dit, c'est que la prudence dicte qu'on ne devrait pas prendre les places qui ne sont pas les nôtres, sans être certain qu'ils sont vraiment les nôtres. L'autoproclamation d'une certaine gloire personnelle va peut-être mener à l'humiliation publique dans ce cas-ci. Que ceux qui veulent, et là Jésus l'applique au souper évidemment dans le contexte, mais dans un sens plus large, que ceux qui veulent s'élever publiquement prennent garde de ne pas être humiliés par le maître. et d'être amenés à la dernière place, parce que leur chute sera aussi publique. Et on le voit avec toutes sortes de gens, autant dans l'Église que dans le monde. Mais le principe important à reconnaître est qu'on ne devrait pas surévaluer notre importance. Ça fait drôle à dire, mais sinon on risque d'être abaissé. Que les chrétiens s'évaluent avec franchise et avec humilité. Dans les versets 10 et 11, il enchaîne avec, il nous a dit quoi pas faire, et là il nous dit quoi faire dans les versets 10 et 11. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, il te fera cet honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Jésus ne laisse pas l'invité en humiliation, comme un bon maître, il cherche le bien. Et si une place est réservée à l'avant, il va aller chercher la personne, il va l'amener en avant. Jésus avise les invités qu'il vaut mieux être humble et gradué que d'essayer d'usurper une place qui n'est pas la nôtre et d'être humilié. L'humilité peut produire l'honneur. Vous savez, certains chrétiens sont un peu inconfortables à l'idée de ce passage parce qu'ils ont l'impression que ça l'enseigne une fausse humilité. Hein? Ils ont l'impression qu'il faut qu'ils soient humbles pour être glorifiés ou qu'on cherche la gloire personnelle par l'humilité. Et là, ça devient une espèce de jeu malsain de je veux me morfondre moi-même pour être glorifié dans l'Église. Et ce n'est pas du tout ce que ce passage enseigne en réalité. Remarquez trois choses. Jésus enseigne que l'humilité est requise, peu importe la place où on s'assit. La place où on s'assied n'a pas d'importance. On doit être humble si on dit aimer Dieu, à l'exemple de Jésus. Deuxièmement, ce n'est pas fait à cause de la gloire qu'on recherche, c'est fait à cause de l'humilité. La raison pour laquelle on prend la dernière place, c'est parce qu'on veut s'humilier et sinon pas parce qu'on recherche la gloire à travers ça. Et troisièmement, c'est fait par prudence, c'est fait par réalisme de soi, en réalisant qui nous sommes devant Dieu, ou qui nous sommes dans ce cas-ci devant l'autre qui reçoit. L'invité dans ce cas-ci était le Messie. J'imagine qu'il méritait la place, le bras droit de l'autre, au moins. Le commentateur Darrell Buck dit ceci, « C'est beaucoup de bruit pour rien. Le point principal est qu'il vaut mieux que les autres reconnaissent qui vous êtes plutôt que de leur suggérer à votre place. L'humilité est la meilleure des voies dans toutes les situations. La position doit être suggérée par d'autres et non pas saisie par soi-même. » Le point que Jésus fait est qu'on ne devrait pas rechercher la gloire personnelle par des moyens détournés, que ce soit en s'auto-humiliant ou en prenant la place quand on sait qu'elle n'est pas à nous. Les deux ne sont pas bons. Le point est qu'on devrait avoir une attitude d'humilité en tout temps et que peut-être on va trouver un honneur à ce moment-là. Peut-être que le maître va nous honorer. Et là, la place sera vraiment la nôtre. Elle nous sera donnée. Mais l'humilité requiert qu'on comprenne qui on est devant Dieu, qu'on soit conscient à quel point on est faible et qu'on ne vient de rien, que Dieu nous a pris de la poussière. C'est dur quand on réalise d'où on vient de prendre la place d'honneur. Ça remet les pendules à l'heure. Et on prend la dernière place parce qu'on s'humilie. On dit « Non pas moi, Seigneur, mais toi ». Mais vous savez, les pharisiens étaient les maîtres de prendre l'attention des gens. S'il y avait bien une chose qu'ils aimaient, c'était de prendre la gloire publiquement. Et ça, ce n'est pas un oui-dire. On le voit à quelques reprises dans le Nouveau Testament. On le voit entre autres dans cet événement où le pharisien est dans le temple et crie à voix haute et prie qu'il est tellement content de ne pas être comme les pécheurs qui l'entourent. Et là, on a le publicain qui se frappe la poitrine puis qui reconnaît, qui s'humilie, qui se repent devant le Seigneur. J'ai-tu vraiment besoin de poser la question de qui Dieu entend? Si l'honneur nous est dû, les autres vont le reconnaître. Pour Jésus, le point d'importance ici, c'était l'humilité de ses serviteurs. Si on dit connaître Dieu, surtout si on dit être des leaders religieux, parce que dans le contexte, il s'adresse aux pharisiens, aux scribes, on doit agir comme Dieu. On doit être humble de cœur. Ce verset, dans le verset 11, où il dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé », est un écho du Proverbe 25, versets 6 et 7, qui nous dit « Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici » que si on t'abaisse devant les princes que tes yeux te voient. » Le principe est clair, ceux qui aiment Dieu, ou ceux qui, dans ce cas-ci, disaient aimer Dieu, étaient en fait des élites arrogantes qui cherchaient leur propre gloire et qui étaient orgueilleux. Et Jésus voit à travers ce jeu, si on peut l'appeler ainsi, des pharisiens. Il leur rappelle que ceux qui aiment vraiment Dieu sont humbles de cœur et prennent la dernière place. Jésus insiste sur le fait que l'honneur doit être donné et non pas pris de force. Ça fait écho aussi aux maximes qu'on retrouve dans Ézéchiel 21. Je vais juste vous lire, on le voit dans 29 à 31, mais le bout important est celui qu'on voit à la fin du passage. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. » Donc le même maxime qui revient encore une fois. C'est un écho d'où Jésus tire les mots d'Ézéchiel, évidemment, mais cette fois dans un contexte encore plus large dans le Nouveau Testament face aux pharisiens. Et évidemment, le verset 11 a une saveur dans son contexte eschatologique, au sens plus large de la foi chrétienne. Pao et Schnabel, deux commentateurs, disent ceci. L'allusion à ces textes juifs de l'Ancien Testament dans Luc 14, verset 11, indique que l'affirmation du verset 10 doit être vue, dans une perspective eschatologique plus large. La source de l'honneur dans le royaume de Dieu n'est pas dérivée de l'ordre social décrit par des amis riches, des frères ou des sœurs ou des parents de voisins riches, mais du jugement de Dieu qui aime les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. Et combien de fois, surtout dans les évangiles, ce principe revient? Ceux qui sont accueillis dans le royaume céleste ne sont pas ceux qui, à nos yeux humains, pourraient représenter des gens honorables et dignes. En fait, on en fait souvent des descriptions un peu, je dirais pas macabres, mais quasiment sombres. Des estropiés, des boiteux, des aveugles, des pauvres. Vous savez, le problème, c'est qu'en Amérique du Nord, avec ce qu'on a physiquement, on a tendance spirituellement à le transposer. Mais ça ne se transpose pas, notre physique ne se transpose pas au spirituel. On est aussi pauvre que n'importe quel être humain dans le monde, même si on est riche physiquement, matériellement. Ensuite, Jésus ne s'arrête pas là, évidemment. Il enchaîne avec cette exhortation à la générosité. On pourrait dire peut-être deux faces du même sou, l'humilité et la générosité. Dans le verset 12, il va donner une indication de qui on ne devrait pas inviter. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, et là il parle à l'autre qui l'a invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. » N'invite pas, méphoné en grec, ne veut dire de ne pas faire quelque chose exclusivement. Donc le principe ici n'est pas de ne plus avoir de vie sociale, ok? Vous avez le droit d'inviter vos parents à manger, vos enfants. Mais le principe que Jésus enseigne, c'est d'aller au-delà de ça, de ne pas s'arrêter à ça et de ne pas exclusivement inviter des gens qu'on sait qui nous aiment et qui peuvent nous rendre l'appareil. En fait, Jésus est en train de nous enseigner sur la vraie valeur de l'hospitalité. Jésus nous donne une forte exhortation à ne pas seulement inviter des gens qui peuvent nous rendre en retour ce qu'on leur donne. C'est ce qu'on pourrait appeler une réprimande douce à l'égard de son hôte. Je ne sais pas si lui, il l'a pris doucement, mais ça, si vous mettez dans le contexte où est-ce que vous recevez le rabbi et qui est en train de vous dire que c'est pas Jésus qui t'aurait dû inviter, c'est des boiteux, des estropiés, des gens qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Pourquoi tu m'invites moi? Oups. Il devait avoir un petit froid pendant le souper, j'imagine. Comme à bien d'autres occasions avec Jésus. Mais c'est une sorte de réprimande douce qu'il lance. Jésus rappelle que on ne devrait pas juger, voir les gens selon le statut social ou prioriser certaines personnes sur d'autres. Il nous rappelle de l'importance d'une vraie hospitalité. L'hospitalité, selon Jésus, a plus de valeur quand elle ne peut pas être réciproque. Quand on donne sans s'attendre en retour. Ou même, encore mieux, quand on sait qu'on n'aura pas en retour. Darrell Buck nous dit, « Le point important est que l'hospitalité habituelle de rétroaction n'a pas de grand mérite pour Dieu. La fraternité ne devrait pas avoir de limite sociale. La meilleure hospitalité est celle qui est donnée et non pas celle qui est échangée. » C'est celle qu'on donne et non celle qu'on échange. Les pharisiens se disaient proches de Dieu. Ils auraient dû savoir que Dieu prend plaisir à pourvoir à des hommes qui ne peuvent pas leur rendre en réciproque. Et ça, si vous vous demandez, ça inclut absolument tous les humains de l'humanité de tous les temps. Il n'y a rien qu'on peut rendre à Dieu réciproquement. Et Dieu nous a invités à sa table. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait jamais inviter ceux qu'on aime, qu'on ne peut pas avoir une vie sociale normale, mais ça veut dire qu'on devrait aller plus loin que ça en tant que chrétien. On devrait réaliser que la vraie valeur de l'hospitalité n'est pas seulement avec nos proches qui nous aiment et qui peuvent réciproquement nous rendre de l'amour ou peu importe ce qu'on leur donne. Ce n'est pas une interdiction à une vie sociale, c'est une exhortation à aller plus loin dans notre vie sociale, à ne pas faire de compromis dans notre générosité. L'hospitalité généreuse est large, comme Christ l'enseigne. Vous savez, l'être humain étant ce qu'on est, on a beaucoup des zones de confort et on reste à l'intérieur souvent de ces zones de confort-là. La vie chrétienne, je vais vous l'avouer, quand on la vit de plein fouet, a tendance à nous sortir de ces zones-là. Que ce soit par l'environnement extérieur, la persécution, toutes sortes d'événements comme ça, ou que ce soit par le changement intérieur qui est opéré par le Saint-Esprit, par notre sanctification personnelle, que Dieu nous transforme sans cesse à l'image de Christ. Mais pourquoi on devrait déborder et on devrait chercher à aller vers ceux qui ont besoin? Bien, pour glorifier Dieu. Parce que c'est ce que Christ a fait à notre égard. On était de ces gens malades qui avaient des besoins. Et le problème, c'est que parfois, on ne se voit pas comme ces gens-là. On se voit dans la catégorie des gens qui étaient corrects puis que, bon, Dieu nous a juste sauvés de même, là, par inadvertance. Non, vous étiez dans la catégorie malade, pas bien, et vous aviez besoin d'aide. Et c'est là que Christ vous a sauvé. Romains, Paul le dit bien dans Romains, de où Christ nous a sortis. Donc, apprendre à aimer ceux qui sont en besoin. Apprendre à ouvrir les portes de nos foyers, de nos familles, de nos travails, peu importe dans les situations dans lesquelles Christ nous met. Et au verset 13, il enchérit sur cette idée, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Donc, il y a un contraste qui est fait entre l'hospitalité ordinaire et l'hospitalité chrétienne. Ça plaît à Dieu qu'on donne sans recevoir. C'est un amour qu'on pourrait décrire comme étant sacrificiel, le même amour que Christ a eu pour nous. L'hospitalité est généreuse quand elle est donnée sans aucun motif. La promesse qui est donnée au verset 14 va suivre dans le dernier verset qu'on va regarder ce matin, et je conclue avec ça. Elle est très courte. Elle dit « Tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil. » Pensez à ça. C'est très court et c'est très étrange quand on y pense. On va être content parce qu'on n'aura rien. Parce que les gens ne peuvent pas rien nous donner. Ça semble un peu contre-intuitif dans un sens. Pas spirituellement. Et si vous êtes chrétien, probablement que vous comprenez le sens de ce texte-là. Parce que vous avez déjà vécu la joie de donner sans rien avoir en retour. Parce qu'il y a une joie spirituelle qui vient de simplement obéir à notre maître et d'agir comme lui. Ce n'est pas ce que le monde va vous dire de faire pour avancer votre carrière, mais c'est ce que la parole nous enseigne et c'est ce qui va nous donner de la joie en tant que chrétien. Et pourquoi on le fait? Ben, à la fin de la phrase, il dit « car elle te sera rendue ». À la résurrection des justes. C'est quand même une bonne motivation. Ceux qui ne peuvent pas payer pour notre hospitalité et notre générosité, Christ va payer à leur place. Quand même un bon motivateur. Combien de fois dans les Écritures on est encouragé, exhorté à s'amasser des trésors célestes plutôt que de vivre pour le moment présent? Vous savez, je sais, moi aussi, j'ai un corps physique, je vis dans le monde, même je suis pasteur. Ça peut être tentant de vivre pour le monde, de vivre pour nos bébelles, pour ce qu'on a, pour notre famille, pour notre emploi, pour nos amis. Ça peut être facile de s'évader dans tout ce que le monde nous offre. Et en soi, ces choses-là ne sont pas péchées nécessairement. Dieu les donne dans bien des cas. Dieu est généreux à notre égard avec ces choses-là. Mais le problème, c'est quand on commence à se perdre dans ces choses-là et qu'on oublie que notre vrai trésor, celui qu'on devrait être en train de se ramasser, est au ciel. Il n'est pas ici, il n'est pas tangible. Et tant qu'on est trop occupé par notre vie ici terrestre, qu'on oublie celle spirituelle, on a tendance à faire des mauvais choix ici-bas et à prioriser notre personne, notre avancement ou peu importe, notre gloire, au lieu de prioriser la gloire de Dieu. Et c'est un danger duquel on doit garder nos cœurs constamment. Les vrais trésors se ramassent au ciel. Ils sont éternels. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent pas être perdus. Ils sont storés à tout jamais. Quand on contraste le ministère de Jésus avec la façon dont les pharisiens accueillaient, on voit ces deux caractéristiques ce matin ressortir de façon flagrante. L'humilité qui est enseignée par Christ et la générosité qui est enseignée par Christ aussi. Et non seulement enseignée, mais démontrée par la personne de Christ et par comment il a vécu sur terre. Jésus invite les pharisiens, on pourrait même aller jusqu'à dire il les confronte, contre la norme sociale. C'était normal d'inviter le rabbi voyageur après la synagogue. C'était des choses qui étaient traditionnellement normales et bien vues par la société. C'était la coutume du temps. Mais s'abaisser, c'est pas naturel pour des hommes pécheurs. Prendre la dernière place, s'humilier, donner sans s'attendre en retour, ce sont toutes des choses qui vont contre notre nature pécheresse. On a tendance à vouloir tout accumuler, prendre les places d'honneur, puis vouloir s'auto-glorifier. C'est ça le péché de l'homme. La question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on pourrait avoir en retour, mais de ce qu'on peut donner. Dans un sens plus large, un jour, ceux qui sont humiliés en Christ, ceux qui aujourd'hui sont persécutés pour leur foi, ceux qui sont la risée des moqueurs à cause de leur foi, seront élevés à la gloire de la résurrection. Et les moqueurs auront le juste salaire qu'ils auront mérité. Et le salaire du péché, c'est la mort éternelle, nous rappelle Paul. Ceux qui ont été les derniers, ceux qui ont été les rejetés de ce monde, et c'est pas d'hier là, que les chrétiens sont ces gens-là, c'est depuis toujours, seront un jour dans la communion parfaite avec le Créateur. Et s'il y a un espoir à avoir ce matin, malgré le contexte social dans lequel on peut vivre parfois, c'est d'être encouragé qu'un jour, nous serons à côté du Créateur. Et Christ lui-même s'est abaissé pour nous. Il nous a donné cet exemple. Prenant forme humaine par l'incarnation, qu'on va célébrer bientôt. Hein? Lui qui est Dieu, s'est fait chair pour notre rédemption. Ayons cette générosité, cette humilité qui était caractérisée par Christ. Et laissez à Dieu le fardeau de la récompense. Et laissez à Dieu le fardeau de vous donner l'honneur, si honneur vous est dû. Prions. Merci Seigneur pour cette exhortation ce matin. Évidemment, comme toujours, on vient à ta parole sachant qu'on, à bien des égards, on n'est pas au standard, Seigneur. On n'arrive pas à la cheville de ce que tu nous demandes. On veut te demander pardon pour nos péchés, pour la façon qu'on agit souvent de façon égoïste et orgueilleuse. Et on veut te demander, Seigneur, de nous façonner à l'image de ton Fils Jésus-Christ, qui lui a marché humblement sur cette terre, ne cherchant pas la gloire des hommes, mais donnant avec générosité à qui avait des besoins. Fais de nous des hommes et des femmes qui aiment leur prochain, qui donnent et qui sont humbles de cœur. Merci pour ton amour, ta grâce. Merci parce que tu nous pardonnes, même là où on chute, même quand on est à côté de la voie, Seigneur. Tu nous ramènes comme un bon père. Amen.